Silence.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, bonjour à nos chers auditeurs. Et puis, moi j'ai une petite surprise, j'ai quelqu'un dans le studio qui est à côté de moi.
Mais alors qui est avec toi?
Oui, qui est à côté là, voilà, il s'appelle...
Baptiste.
Ouais. On dit pas ton âge parce qu'on sait jamais. Après, ils vont te demander en mariage tout ça, les filles, parce qu'il est mignon comme tout. Alors non, on va pas dire. Donc Baptiste, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais allé au cinéma.
Exact.
Et voilà. Et qu'est-ce que tu as vu alors?
Je suis allé voir J'accuse, donc.
Tu as vu J'accuse, formidable. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en penses?
Franchement, c'est un très bon film.
C'est vrai?
Ouais.
Ouais, J'accuse. Ah, ben oui, alors ça, c'est le film à voir. On en a parlé ici à l'antenne, justement. Bien. Et avant, qu'est-ce que t'en avais vu? T'avais vu autre chose précédemment?
Oui, plus des films d'animation, Star Wars ou des trucs comme ça.
Ah, il est bien aussi, hein, le film d'animation. Oui. Tu l'as vu quand, celui-là?
Ça date, mais...
Oui, on en a parlé. Ouais.
Il y a un nouveau qui sort, là, mercredi.
Oui.
On va aller directement le voir. Hein.
Oui, tout à fait. Mais justement, on va parler de mercredi, là. De mercredi dernier, justement, là, on va parler. Parce que là, j'ai le 11... Et le 18, il y a les deux, mes chéris, parce que je vous ai fait faux bond, il me semble, pour le 11.
Mais t'étais là, mais t'as oublié de parler des films.
Voilà, en fait, en ce moment, je suis un petit peu dans les cartons, mes chéris. Je vous fais une confidence. Je suis dans les cartons, il y en a partout autour de moi. Donc, je suis un petit peu, comment on peut dire ça? Je suis égarée au milieu des cartons. Voilà, chez moi, voilà, donc je suis obligée de les ouvrir, de tout ça, de les vider et tout. Du coup, ça me vide la tête aussi. Voilà. Donc, on va commencer, puisque tu dis que tu aimes les films d'animation, mais pour adultes, je suppose, non?
Oui.
Plutôt? Oui, d'accord. Bah, là, j'en ai un à partir de 3 ans. C'est ma petite amie, ma petite copine chérie Naya qui va pouvoir y aller, parce qu'elle a l'âge, justement, à partir de 3 ans. Ça s'appelle Le Cristal Magique. Alors, c'est une animation famille, c'est belge, c'est allemand, enfin voilà, tout le monde s'y est mis. On a donc dans une co-réalisation, elles ont l'habitude de travailler ensemble absolument, elles font des choses très 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 jolies. C'est Nina Wells qui est une réalisatrice allemande et Regina Welker qui est également une actrice monteuse, productrice allemande de 35 ans. Elles ont 35 ans toutes les deux d'ailleurs. Voilà, elles ont en fait c'est l'histoire, le cristal magique, c'est l'histoire d'un cristal justement qui a le pouvoir de faire revenir l'eau dans la forêt. C'est beau ça. Mais il a été volé par le roi des ours, Bantour. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy, la petite hérissonne, et son ami Tom, l'écureuil, décident alors de partir à l'aventure pour sauver la nature. Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux. Alors, c'est Mimi comme tout. C'est, voilà, les personnages, moi, m'ont beaucoup plu. Voilà, je les trouve très sympathiques. Et, mais peut-être qu'il a une petite surprise, Damien, pour nous. Sur le son.
Une légende raconte qu'un cristal magique pourrait ramener l'eau dans la forêt desséchée.
Nos réserves d'eau ne sont plus que de 4 citrouilles et demi.
Oh non!
Mais ce cristal a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le ramener. ce sont parfois les plus petits qui ont le plus grand courage. Vivez une incroyable aventure avec Emile Harrison et Tom l'écureuil.
Tu es meilleur.
Affrontez les pires dangers.
Vous cherchez quelque chose.
Jusqu'au royaume des ours.
C'est très dangereux ici. Il y a des grosses bêtes féroces partout.
Il n'y a aucune...
Attention!
Vous les deux, vous faites une excellente équipe.
Franchement, c'est pas mon jour de chance. Amy, c'est sans espoir.
T'inquiète pas, on va réussir. Je vais le trouver, ce cristal.
Cet hiver, découvrez la légende du cristal magique.
Un simple merci aurait suffi.
Partez à l'aventure pour sauver la nature. Le cristal magique.
On est fort ou on est trop fort?
Au cinéma, le 11 décembre.
Comme tout. Voilà, donc. Ah, je ne l'ai pas dit, ça dure 1h21, au fait. Mais ça passe très bien, hein, ça passe très vite. À partir de 3 ans, il n'y a pas de souci. Ça se regarde.
Le cristal magique.
Avec beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai une comédie française. On en parle beaucoup en ce moment. Si vous n'avez pas entendu parler de ce film, c'est que vous n'avez ni radio ni télévision. Parce que c'est quand même, il y a pas mal de pubs là-dessus. Ça s'appelle Docteur. Alors attends, ça se prononce Docteur ? Point d'interrogation.
C'est ça, c'est Docteur avec un point d'interrogation.
Voilà, une comédie française. C'est Tristan Séguéla qui l'a réalisé. Il est scénariste également. Il est créateur. Il a 41 ans. Il est français. Et son film a eu une nomination au Festival Ciné-Comédie 2019. Ça se passait à Lille, hein, le Festival Ciné-Comédie. Il a été nommé d'ailleurs film de clôture. Alors c'est quoi cette histoire de Docteur ? Point d'interrogation. C'est le soir de Noël, justement, ça tombe bien. Évidemment, ça sort en ce moment. Les Parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. Eh oui, d'autres regardent la télévision, seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge, ben c'est qui ? C'est le seul SOS médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. Eh ben oui, de toute façon, il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de liberté avec l'exercice de la médecine et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaie de suivre le rythme de mauvaise grâce quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. Eh oui, c'est celle de Rose, une relation de famille qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur. Uber Eats, eh oui. C'est la boîte qu'il représente, Uber Eats. Il s'appelle Malek. Et lui aussi, il est de service ce soir-là. Et je n'en dirai pas plus, évidemment. Alors, on a dans le rôle principal Michel Blanc, toujours excellent, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose à dire, là. C'est lui. En fait, son nom, le nom du médecin, c'est Serge Mamoumani. Eh oui. Ensuite, on a Hakim Djemili, qui est formidable dans le rôle de Malek. Là, vraiment. Hakim Djemili, c'est un humoriste, hein, un youtubeur aussi. Hein, il fait un peu de tout, lui. C'est un casting très sympathique, en fait. Hein. On a Solène Rigaud, ben, c'est Rose, l'ami de la famille. Hein. On a Franck Gastambide, hein, on le connaît, Franck Gastambide. Artus, l'humoriste Artus. Jacques Boudet, Nicolas Vaude. Et d'autres encore. Alors voilà les rôles principaux. Donc c'est l'histoire d'un... Le médecin, lui, il est désabusé, il est aigri, il est à la dérive. Voilà. Il n'aime plus son métier. Il n'aime plus sa vie non plus. Il n'a pas la moindre empathie pour ses patients. Ça, c'est très ennuyeux pour un médecin. Et le livreur, lui, à bicyclette d'ailleurs. Hein, le réalisateur a voulu absolument que le livreur soit à bicyclette parce que maintenant, on les voit énormément livrés à bicyclette, effectivement. Alors lui, c'est le contraire. Il est généreux, optimiste. Il est bon et il est candide. C'est-à-dire, c'est l'opposé absolu du médecin. C'est évidemment, tout est là-dedans, quoi. Justement, c'est la finesse de cette opposition entre les deux personnages qui fait tout le film, le sel du film. Ça dure 1h28 et je pense que Damien nous a peut-être mis une bande-annonce de côté.
Et c'est pas peut-être, c'est sûr.
C'est sûr. Merci,
Docteur.
Damien.
Mmh. Oui, quoi ?
Fièvre pour toi dans le 18e. T'es tout seul cette nuit.
Vous faites chier, hein ? Vous habitez ici ?
Ah, j'aimerais bien, mais...
Je sais que Noël, c'est dur pour toi, mais un jour, j'arrêterai de te couvrir.
T'inquiète, je gère.
Ah, putain !
Je peux pas bosser ce soir.
Faut que je dise comment. T'es tout seul.
Bien, l'esprit de Noël, hein.
Y'a personne pour vous remplacer? Vous êtes sûr qu'il y a OK, l'histoire?
Fais ce que je te dis et tout se passera très bien.
Chanteur?
Oui, c'est moi-même.
Et j'ai très très mal au ventre, ça me fait comme des coups de poignard. Bah, on peut peut-être essayer de vous éviter l'hosto.
Et plus c'est Noël, non?
Fais gaffe, mon pote, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Hein.
Il a un bouchon qui lui obstrue le rectum.
Est-ce que vous pourriez être un peu plus clair? Ça arrangerait tout le monde, s'il vous plaît.
Il a de la merde séchée qui lui bouche le trou du cul, et toi, tu viens de lui proposer de le déboucher. C'est clair comme ça?
Beaucoup trop. Bonsoir, c'est le docteur Nanounaninani.
Mamoumani, bordel.
Bonsoir, docteur. Il y avait 38,2 il y a une heure.
On va la reprendre quand même.
On va la reprendre quand même. Bon, les mains.
32 degrés. Recommence en essayant de viser le front, s'il te plaît.
Bonsoir, docteur.
Bonsoir, docteur. Super.
Bah, c'est ouf, ce truc, hein.
Oula, qu'est-ce qui se passe?
Docteur, qu'est-ce qui m'arrive?
Bah, vous venez de vous pisser dessus, en fait, là.
Mais pas du tout. Alors, docteur, vous voyez quelque chose? Docteur?
Et voilà donc, docteur, avec Hakim Djemili et Michel Blanc.
Dis-moi, Baptiste, si tu as un médecin qui arrive chez toi et qui se comporte comme Serge, comme le vrai médecin, qu'est-ce que tu fais, toi?
Je sais pas.
Désagréable comme ça, un rien méprisant.
Je le mets à la porte.
Voilà. Eh ben, dis donc, c'est exactement ce que je ferais, figure-toi. Je vois arriver ce bonhomme, là, je le mets à la porte. Très bien, Baptiste. Très bonne réponse. J'y pensais, je t'assure. Je me disais, voyons, si j'avais un gars comme ça qui arrive et qui en a rien à foutre et qui est désagréable et tout, moi, je lui montre la porte et j'ai maintenant dégagé. Voilà, tu vois. C'est à ça que je pensais en écoutant l'extrait. Alors, ensuite, est-ce que tu iras voir le film, au fait, ça te dit ou pas?
Je sais pas du tout.
Tu sais pas? Non. Est-ce que les acteurs t'inspirent ou non ou... Parce que souvent, on choisit aussi un film par rapport aux acteurs, quand même, aussi. Si on n'aime pas les acteurs, bon, bah voilà. Je sais pas, Michel Blanc, ça te dit?
Moi, quand je vais voir un film, je regarde pas les acteurs.
Hein. Ah bon? Toi, tu regardes?
Je regarde juste la bande d'annonce.
Voilà, oui, bah oui, toi, c'est l'histoire, toi.
Ouais.
C'est l'histoire et voilà, tout ce qui est autour de... D'accord. C'est... Bon, oui, bah oui, oui. Donc, je sais pas, tu n'auras peut-être pas le voir alors finalement.
Hein. Je ne sais pas.
Si bon. Bon, en tout cas, mes chéris, vous, si vous avez des douleurs en pleine nuit et si vous appelez Serge, franchement, hein, bon courage. Non, par ici, je suis sûre qu'on a des médecins absolument adorables et que des Serges, il y en a très peu, Dieu merci. Ensuite, j'ai une comédie dramatique belge et française. Très, très beau film, Lola vers la mer. C'est l'histoire... En fait, on va parler de l'histoire tout de suite, d'ailleurs. Alors que Lola, c'est l'héroïne, jeune fille transparente de 18 ans, apprend qu'elle va enfin pouvoir se faire opérer. Sa mère, qui doit la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis 2 ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu'à la côte belge. En chemin, ils réaliseront que l'issue du voyage n'est peut-être pas celle à laquelle ils s'attendaient. C'est vraiment un film magnifique. C'est de Laurent Micheli, qui est un réalisateur, adaptateur, co-scénariste français. Alors, son film a 2 nominations. Moi, je trouve qu'il méritait plus que ça, mais bon. Tant pis, c'est pas moi, je ne fais pas partie du jury.
C'est pas les nominations
festival
non plus.
Du film francophone.
C'est pas non plus les nominations qui font le film.
Absolument. Alors là, tout à fait. Je suis ravie de t'entendre dire ça, Damien, parce que c'est ce que j'ai envie de dire souvent d'ailleurs. Hein, effectivement, il y a de très bons films qui n'ont rien, hein, qui n'ont ni nomination ni prix et qui sont magnifiques. Enfin, lui, il a ses 2 nominations et tout à fait mérité, hein, quand même. Hein, c'est. Alors, c'est un Belge, hein, ce réalisateur, Laurent Micheli. Donc, c'est lui qui... Il est issu du théâtre, cet homme-là, d'ailleurs. Il nous dit, quoi, je crois que souvent au cinéma, le besoin de raconter un récit naît d'une double envie. L'une intime, l'autre politique. La raison intime, c'est le besoin de me replonger dans ma propre adolescence, dans cette période où le monde adulte me paraissait violent, archaïque, peu à l'écoute de la jeunesse et de ses besoins. La raison politique, c'est le besoin d'écrire un personnage principal issu d'une minorité et de le porter en haut de l'affiche, lui donner cette tribune et cette visibilité. J'ai toujours été sensible aux questions. À ce genre de questions, ça fait partie de mon quotidien. Et c'est donc naturellement que j'ai eu envie de parler de la transidentité. Alors, elle est tout à fait la jeune actrice, là. Il l'a choisie parce qu'elle a beaucoup de talent. Je crois qu'il a fait un excellent choix, d'ailleurs, avec cette jeune fille. Est-ce qu'on peut entendre un extrait?
On peut tout à fait écouter la bande-annonce.
Comment ça va en ce moment?
Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux.
Pourquoi tu veux faire ça? Moi, j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille.
De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout. Comment t'es venu me faire ça? Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman? Jamais tu pourras réparer ça.
Réparer quoi? T'as déjà tout cassé? Tu te ramènes ici habillé comme un travaux. Putain, parfois!
Tu vas la remettre sur ton petit meuble de merde?
Je vais l'emmener au bord de la mer dans sa maison d'enfance. C'est elle qui me l'avait demandé.
T'as pas fini tes conneries? Sors! Sors de là!
Je la laisserai pas!
Soit tu descends, soit on y va.
Allez, où?
À la mer. Alors tu te fais appeler Lola maintenant? Très classe.
Oh le con! Putain!
Je sais pas ce que tu veux prouver, mais tu viens avec moi, on s'en va.
Non, je suis bien ici. Moi, je bouge pas.
Tu me touches pas.
Ça suffit.
C'est mon fils, je fais ce que je veux. On sera jamais d'accord tous les deux. Je te demande une seule chose. On finisse ce qu'on est venu faire. On le fait pour elle.
Elle te manque? Maman, avec toi, j'ai toujours eu l'impression que tout était possible. Et que ce qui était important dans la vie, c'est ce qu'on croyait soi. Et pas ce que pensaient les autres.
Connard !
Aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière les apparences. Et ça, c'est grâce à toi.
Lola vers la mer. Donc
dans les
Laurent
rôles
Micheli.
Principaux, donc on a le rôle de Lola. D'ailleurs, dans la presse, il est dit que c'est une véritable révélation dans son rôle. Elle s'appelle Mia Bollaers. Alors, retenez bien son nom, mes chéris, parce que là, je pense que c'est bon pour elle et qu'elle a fait un bon départ. Et on a Benoît Magimel.
Qu'on a
dans
reconnu.
Les rôles principaux qu'on connaît absolument. Qui est bon.
On a reconnu sa voix.
Oui, tout à fait, dans l'extrême, et qui est formidable, comme d'habitude. Mais elle, vraiment, pour elle, vraiment, il faut aller voir le film. C'est vrai qu'elle est extraordinaire. Ensuite, un drame biopic. C'est américain, c'est allemand, ça s'appelle Une vie cachée. C'est inspiré de faits réels, hein. C'est pour ça que je dis que c'est aussi un biopic. C'est l'histoire de Franz, attention l'accent, j'ai l'accent allemand, attention, Jägerstätter. On ne sourit pas quand je parle allemand, on ne sourit pas. Donc, Franz Jägerstätter, c'était un paysan autrichien qui refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fanny, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ses héros méconnus. C'est un film de Terrence Malick, qui est un réalisateur, scénariste, producteur américain. Il a 76 ans. Il a déjà eu 51 nominations, 2 prix plus pour Une vie cachée. Il a 2 prix et 11 nominations. Donc il a au Festival de Cannes 2019, au Festival du cinéma américain de Deauville 2019. Il a le prix œcuménique et le prix François Chalais. Son film est plébiscité absolument. Et je crois que là, vraiment, c'est mérité, quand même. Il a eu la Palme d'Or aussi, ce Terrence Malick, en 2011, pour The Tree of Life, l'arbre de vie. C'était avec Brad Pitt et Jessica Chastain. Il a eu 6 prix, 24 nominations. Je crois qu'il est un habitué, quand même, hein, des titres, des nominations et des prix. Alors ce monsieur là, Franz Jägerstätter, il a été exécuté en 1943 à la prison de Brandebourg de Berlin, dans un garage. Ils ont fini par l'exécuter, ouais. Le film s'appuie sur sa correspondance avec sa femme qui l'appelle Fanny et qui s'appelait Franziska. Alors, dans les rôles principaux, on a Auguste Diehl, qui joue le rôle, c'est un acteur allemand qui joue Franz. On a Valérie Pechner, qui est une actrice autrichienne. On a Maria Simone, qui est une actrice allemande. Tobias Moretti. Alors lui, Tobias Moretti, c'est un acteur autrichien qui est très, très, très connu. Là-bas, c'est une grosse vedette. Alors, pour les situer, je ne sais pas, mes chéris, si de temps en temps vous avez regardé entre 1994 et 1998 une série qui s'appelait Rex, chien flic, ben, c'était lui, là, on le voyait. Là. Ah, mais je vois Baptiste qui me fait un signe de la tête, il connaît, il a vu. D'accord, donc tu connais cet acteur finalement, si tu as regardé un peu.
Ouais, ça passe sur France 3, il me semble. Où...
Ils en repassent maintenant. Ouais, hein. Ouais. C'est une très bonne série. Hein.
Ouais.
C'est sympathique, quoi. Le chien-loup est sympathique. Et ben voilà, c'était le héros dedans, dans cette série entre 94 et 98. Donc, mais vraiment, c'est un acteur chéri en Autriche. Hein. Il est très, très, très apprécié. Et j'ai dit 2h53. Voilà, c'est beau si vous êtes sensibilisé à cette période, si ça vous semble vraiment touchant, ce film est pour vous, absolument. Moi, je le veux. J'essaierai de le trouver en DVD très rapidement. Je veux absolument. Ensuite, j'ai un drame romance, c'est brésilien, c'est allemand, et ça s'appelle La vie invisible d'Eurydice Gusmao. C'est de Karim Aynouz, qui est un réalisateur scénariste brésilien de 53 ans. Il a déjà eu 14 nominations, et son film La vie invisible d'Eurydice Gusmao a un prix et 5 nominations au Festival de Cannes 2019 dans la série Un certain regard. Alors il y a un avertissement, attention, on note bien ça, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça se passe à Rio de Janeiro dans les années 50. Eurydice, qui a 18 ans, ils sont deux. Hein. Il y a Eurydice, 18 ans, et Guida, de 20 ans, sont deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent l'une de sa carrière de pianiste, l'autre du grand amour. Baptiste, est-ce que tu rêves du grand amour?
Oui. Je sais pas.
On dit oui ou non.
Ah, est-ce on que tu dire oui ou non.
Voilà. Donc tu es comme une des deux sœurs. Tu es des grands amours. À cause de leur père. Mais jusqu'à notre mort, on rêve du grand amour. Il faut pas croire.
Ouais, hein. Ouais.
Toute notre vie, hein, en fait. À cause de. Des fois, on le trouve. Des fois, pas. À cause de leur père, les deux sœurs vont devoir construire leur vie, l'une sans l'autre. Séparées, elles prendront en main leur destin sans jamais renoncer à se retrouver. C'est une très belle histoire, ça dure 2h20, c'est très beau. Alors on a Carole Duarte, c'est une comédienne brésilienne dans les rôles principaux. Julia Stockler, qui est également une actrice brésilienne. On a un acteur brésilien, Gregorio Duvivier. Et une autre actrice brésilienne dans les rôles principaux, Barbara Santos. C'est beau, c'est très beau, c'est bon là quand même. Mais c'est vrai, les prix sont mérités. Bon, parfois ils sont quand même mérités, il y a pas de doute. Hein. Bon, ça, on sait tout, on sait presque tout sur Baptiste maintenant. Voilà, on sait qu'il rêve au grand amour, mademoiselle. Si vous voulez venir à la sortie, là, je donne l'adresse peut-être. Tu veux que je
Je suis déjà pris. Hein.
Bon, ensuite j'ai un drame français, Les Envoûtés. Ouh, c'est un nom terrible, ça, c'est un mot. C'est quand même assez. Alors, c'est de Pascal Bonitzer, qui est un réalisateur, scénariste, dialoguiste français. Il a 73 ans, il a déjà eu quelques nominations dans sa carrière. Donc, c'est pour le récit du mois, Colline, qui est pigiste pour un magazine féminin, est envoyée au fin fond des Pyrénées. Fin fond, c'est joli les Pyrénées. Interviewée, j'aime bien. Fin fond, ça fait bizarre un peu. Hein. Enfin bon, au fin fond des Pyrénées, interviewée Simon, un artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître, attention, le fantôme de sa mère à l'instant de la mort de celle-ci. Donc, quand sa mère est morte, il a vu son fantôme apparaître. C'est ça. Interview donc que Colline est d'autant plus curieuse de faire que sa voisine, la belle Hazard, prétend elle, avoir vu le fantôme de son père. Simon, donc notre artiste, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Colline, qui lui résiste, mais tombe amoureuse. Ouh, les envoûtés. Donc c'est avec... Alors le casting est très beau. On a Sarah Giraudot. Bon, je rappelle quand même que son papa, c'était Bernard Giraudot, et sa maman, c'est Annie Dupéret. Eh oui, Sarah Giraudot. Je crois qu'elle a pris effectivement la beauté de sa maman et le talent de son papa. Sarah Giraudot, très bonne comédienne. Ensuite, on a Nicolas Duvauchel, on a Annabelle Lopez, Nicolas Maury, Josiane Balasco, Iliana Lolic, voilà, dans les rôles principaux. Alors, c'est tiré d'une nouvelle de Henry James qui s'appelait « Les amis de mes amis »,« The friends of the friends ». Et ou alors « Comment tout arriva ?» ou « The way it came ». Voilà, il y avait plusieurs titres, donc c'est tiré de cette nouvelle. Les envoûtés.
Et on écoute la bande-annonce. Quand même, il y a du beau monde.
T'as besoin de fric?
C'est beau.
J'ai une grosse facture d'électricité.
Et si je te confiais le récit du mois? Tu t'en sens capable? Il s'appelle Simon. Sa mère est morte il y a 6 mois. Et juste au moment où c'est arrivé.
C'est exactement où vous êtes là.
Fantôme.
Il l'a vu.
Pardon, il a vu quoi?
Le fantôme de sa mère.
J'ai lancé la reine.
Et?
Plus rien. Disparu, puis. Je fais peur.
Je connais quelqu'un à qui la même chose est arrivée. C'est même pour ça que je suis là. Mais qu'est-ce qui t'a fait peur?
Je le vois.
Tu vois quoi?
Mon père.
Tu t'es fait avoir. Elle a toujours eu beaucoup d'imagination, à ça.
Faut que je te dise quelque chose. Hier soir, je l'ai vue.
D'ailleurs, comment tu sais que c'était elle?
Elle avait une veste en cuir rouge. Dis-moi ce que t'as dans la tête, je comprends pas, là.
Tes sourires, tes caresses, ta tendresse de merde, tes mensonges, tu te les gardes. Ce que je veux pas, c'est de partager.
Partager avec qui? Avec quoi? Tu parles d'une morte, putain, elle est morte!
Mais tu l'aimes, comme t'as jamais aimé personne. Qu'est-ce que je peux faire, moi?
Et même?
Même quoi?
Même si c'était vrai.
Tu veux que je...
Les envoûtés de Pascal Bonitzer.
Elle est jalouse d'un fantôme, en quelque sorte. Oui. C'est terrible, c'est terrible. Dis-moi, tu crois au fantôme, toi, Baptiste?
Non.
Non. Clairement, bon, non. Alors là, c'était non. Le grand amour, c'était oui. Le fantôme, c'est non. Ah, bon, on va pas non plus... hein? Bon, très bien. Moi non plus. Je n'y crois pas, donc il n'y a pas de problème.
Et ensuite...
Ce serait bien, hein, si vous voyez. Ah, j'ai dit... Je ne sais pas si j'ai dit que ça durait 1h41. Ensuite, j'ai une jolie comédie québécoise. Ça s'appelle « Jeune Juliette ». C'est de Anne Aymond, qui est une réalisatrice scénariste canadienne. Elle a 37 ans. Elle a déjà eu pas mal de nominations, d'ailleurs, dans sa carrière. Alors, c'est qui, Juliette? Ben, Juliette, elle est effrontée. Elle est malicieuse. Elle est un peu grosse et menteuse. Elle n'est pas vraiment populaire au collège, mais ce n'est pas grave. C'est tous des cons. Juliette a 14 ans. Et elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours se montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur l'amour, l'amitié et la famille. Mais il est fait pour toi, ce film, Baptiste. Il est fait pour toi, tout à fait, dis donc. Alors, dans les rôles principaux, on a Alexane Jamieson. Alors, c'est Jamieson. C'est pas facile, hein, Jamieson. Voilà, on a Léane Desilets. Ce sont tous des... Alors là, ce sont des acteurs québécois. On a Robin Aubert, ou Robin plutôt d'ailleurs. Aubert, c'est un acteur canadien. Et on a Gabriel Baudet, qui est un acteur québécois. La réalisatrice, en fait, reconnaît qu'il y a beaucoup d'elle dans son film. Elle est née en 1982, donc elle connaît bien les années 80-90, c'est ce qu'elle nous dit en tout cas. C'était une ado, elle dit qu'elle était une ado rondelette. Elle avait 40 kilos de plus que maintenant. Elle était solitaire et elle avait une ou peut-être deux amies. Voilà, donc elle se reconnaît dans le personnage de Juliette. Tu te rends compte, si tu rencontres Juliette, effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Dis donc, Baptiste, qu'est-ce que tu fais là? Tu prends tes jambes à ton cou ou tu restes avec elle?
En fait,
tu l'invites prendre un café?
Non, mais je suis déjà pris, en fait.
Oui,
oui.
Ah bon, d'accord. D'accord. Okay. Voilà, jeune Juliette. Ensuite. Alors, ensuite. Il est marrant, Baptiste. Il est, ça, hein, il est marrant, ouais. On a un film d'aventure. C'est un drame aussi, c'est autrichien. Je fais beaucoup à l'étranger pour le 11, là. Il y a beaucoup de films étrangers quand même. Ça, c'est bien. Je suis ravie de ça, moi. Et ça s'appelle Liliane. Alors, c'est L-I-2-L-I-A-N. Liliane. Liliane, c'est une jeune femme échouée à New York. Elle décide de rentrer à pied dans sa Russie natale. Seule et déterminée, elle entame un long voyage à travers l'Amérique profonde pour tenter d'atteindre l'Alaska et traverser le détroit de Bering. C'est fou. Alors, l'actrice qui joue le rôle de Liliane, c'est Patricia Planick. C'est un film d'Andrea Horvath, qui est un réalisateur, directeur de la photographie. Il est compositeur également, autrichien. Il a 51 ans, il a composé la musique. Son film a 5 nominations, 4 à la quinzaine des réalisateurs en 2019, pardon, et une nomination au Festival de Cannes 2019. Alors, en fait, le film est inspiré du vrai voyage de Liliane Aling, elle s'appelait, une jeune femme russe qui vivait à New York et qui a décidé en 1927 de rentrer à pied dans son pays. Elle est considérée comme, de nos jours, ou même déjà à l'époque, elle est considérée comme disparue. Hein. On ne l'a jamais revue nulle part. Donc, d'après le réalisateur, il est probable que la vraie Liliane, celle de 1927, souffrait d'une sorte d'amnésie dissociative ou d'impulsion à se déplacer. C'est-à-dire, ça s'appelle, en fait, la maladie s'appelle, attention, c'est un mot un petit peu, dromomanie. C'est la dromomanie. C'est incroyable, la dromomanie. Alors, ça peut durer des mois, ça amène la personne qui en souffre à fuguer, comme ça, sans raison. Mais enfin, là, New York, la Russie, c'est plus qu'une fugue, hein, c'est carrément une traversée terrifiante. Surtout à l'époque. La preuve, c'est qu'on ne l'a jamais revue, cette chère Liliane Aling. Là. Alors, c'est un film étonnant, ça dure 2h08. Étonnant, voilà. Dis-moi, Baptiste, est-ce que tu serais prêt, toi, à partir de Sauveterre de Guyenne pour aller jusqu'au Brésil à pied ? Supposons.
Non, clairement non.
Clairement non ?
Trop dur.
Ah, bah alors.
En avion, c'est mieux.
Oh bon, bah alors. Donc, tu n'es pas atteint de, attention, dromomanie. Non, tu n'es pas atteint de dromomanie. Personne ici, Damien, tu n'es pas atteint de dromomanie ?
Non, pas spécialement. Non.
Bon, alors, on va peut-être un peu rester dans le coin quelque temps.
Ouais.
Ensuite, j'ai une comédie dramatique française. Je l'ai mise de côté quand même parce que je trouvais que c'était pas mal du tout, le choix d'Ali. Alors, Ali est heureux. Il vit à Paris avec Eric depuis 2 ans. Un soir, il reçoit un coup de fil de sa sœur qu'il informe que sa maman a fait un AVC, enfin que leur maman a fait un AVC. Il n'hésite pas, il décide de retourner à Besançon. Eric l'accompagne, c'est un retour qu'appréhende Ali. Il sait qu'il a fui il y a 5 ans sa famille, son quartier, sa ville, parce que être homosexuel, cela n'est pas concevable, inimaginable pour les siens. La voiture roule et se rapproche de Besançon. Ali espère voir sa mère, la rassurer et se rassurer, puis repartir aussitôt. C'est un retour périlleux qu'Ali effectue dans sa famille musulmane pratiquante, où l'homosexualité est un grand péché. Ali ne le sait pas encore, il fera un choix qui restera le sien. C'est un film d'Amor Akkar. Amor Akkar, c'est un réalisateur, scénariste, acteur également français, qui a déjà eu 5 nominations. Donc dans les rôles principaux, on a Yacine Benkada, qui fait Ali, très très excellent dans ce rôle d'ailleurs. On a Sofia Chepchoub, Afida Tari et Florent Guillaume dans les rôles principaux. Ça dure 1h33. Mes chéris, c'est à voir. C'est une découverte à faire. Si le thème vous inspire, allez voir le film, il est bien fait. Ensuite, c'est tout là pour le 11. J'avais terminé parce que...
Mais donc là, voilà, on vient de récupérer la semaine de retard et maintenant on continue avec les films qui sortent aujourd'hui.
Exactement.
Et notamment un film d'animation.
Tout à fait.
Qui s'appelle Vic le Viking.
Par contre, j'ai quand même, pour le 11, là, j'avais quand même... Ils sont sortis de 2 versions restaurées. Lupin III, le secret de Mamo et la carrière d'une femme de chambre. Voilà. Un était sorti en 78 et l'autre en 76. Ils ressortent parce qu'ils sont magnifiques. C'est deux films magnifiques. Ensuite, eh ben, on va rencontrer un petit viking malicieux. Ça s'appelle Vic, le viking. C'est de l'animation, c'est français, belge et allemand. C'est mignon comme tout. Est-ce que, Baptiste, est-ce que tu l'as pas vu quelquefois, ça, la télévision, Vic le viking? Parce qu'il passe parfois des...
Ça me dit un truc, c'est deux noms, quoi.
Ouais, c'est des petits personnages absolument attachants, tout à fait très courageux, avec le papa qui est énorme comme ça. Et Vic, lui, il est normal, c'est un petit bonhomme. Mais son papa, il est... C'est un viking costaud. Alors donc là, c'est à partir de 3 ans également. Donc ma petite Naya va pouvoir y aller. Ma petite copine, elle s'appelle Naya. Elle peut y aller. Donc Vic est un jeune viking, pas comme les autres. Pas très costaud, c'est ce que je disais. Mais très malin. Quand son père, Alvar, alors lui il est costaud, hein, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l'appât du gain sème la pagaille chez les vikings. Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du Grand Nord pour briser le sortilège de l'épée. Tu la voudrais cette épée, Baptiste ?
Bah ouais.
Dis donc, mais tu es vénal en fait, tu aimes l'argent.
Bah ouais, clairement.
C'est ce que je voulais savoir. D'accord. Voilà, donc c'est joli comme tout, c'est de Eric Kaas, qui est un réalisateur scénariste français. C'est chouette. C'est chouette, il y a de l'humour, les couleurs sont très belles. C'est vraiment chouette, ça dure 1h21. Je ne sais pas si on avait quelque chose... Est-ce que...
On a tout à fait une bande-annonce.
Tout à fait, une petite bande-annonce parce qu'ils sont des voix mignonnes comme tout.
Autrefois, les territoires du Nord étaient le royaume des Vikings. Ces grands guerriers au courage légendaire régnaient sur la mer comme sur terre. L'un d'entre eux se distinguait particulièrement par sa force et sa valeur.
Le vainqueur du tournoi de tir à l'arc gagne le droit de naviguer avec les Vikings. Et grâce à ça, ce sera moi le vainqueur.
Pas de panique, Vic. Tu auras ta place sur le Drakkar.
Rien ni personne ne t'oblige à être un guerrier viking comme ton papa.
C'est sûrement l'épée d'Odin.
J'ai découvert ça.
On dit qu'elle a le pouvoir de changer toute chose en or.
Maman !
Elle qui avait un cœur en or.
Maintenant, tout le reste est en or.
T'es peut-être le seul ici à pouvoir nous sortir de cette galère. Aha !
Avram !
On va sauver maman, je te le promets.
Je vous souhaite la bienvenue.
Porte l'épée là-haut avant qu'il ne soit trop tard.
Ça fera de toi un grand viking pour l'éternité.
Tu sais comment nous sortir d'ici?
Ça fait peur, mais l'aventure c'est dans nos cordes, les copains.
Voilà Vic le viking.
Bon, c'est un joli film pour le mois de Noël, hein, quand même. Voilà, ça tombe à peu près bien, là. C'est joli, c'est bien fait. Bon, ouais. Ils ont l'habitude, Erika, c'est pas le premier. Hein. Il en a fait beaucoup sur le Viking. Ensuite, j'ai une animation encore. Alors, c'est du drame, c'est du fantastique, c'est de la romance, il y a un peu tout, c'est japonais. Ça s'appelle Millennium Actress. Alors, c'est de Satoshi Kon, qui est un réalisateur, scénariste, auteur japonais. Il est décédé en 2010 à 46 ans. Je crois qu'il a eu un problème cardiaque. Il avait déjà eu pas mal de nominations. C'est quand même une animation pour ados et adultes, je pense. Hein. Il y a pas bon pour un enfant, je pense pas. Pour un petit enfant, je pense pas que ce soit intéressant. C'est l'histoire de Shikoto Fujiwara qui est une ancienne gloire du cinéma japonais. Aujourd'hui âgée de 70 ans, elle vit recluse. Elle est recluse chez elle constamment, c'est-à-dire qu'elle ne sort plus de chez elle. Un jour, un homme vient lui rendre visite pour l'interviewer sur son passé. Il lui remet une clé que Shiyoko avait perdue voilà 30 ans. Devant le journaliste et son caméraman, elle se met à raconter son histoire. Une vie pleine d'amour et de passion, passée à la recherche d'un étrange inconnu, celui-là même qui lui a un jour remis cette clé en lui faisant la promesse de se revoir. C'est un... Est-ce que tu... Baptiste, tu aimes les films japonais, là, les animations japonaises? Tu vois ce que je veux dire? Les mangas, quoi. Les trucs,
ouais,
c'est chouette, hein, c'est beau. C'est beau, c'est... Les personnages sont très attachants dans cette histoire. Ouais, c'est Millennium Actress. Bah, si vous aimez hein, les films japonais, les animations japonaises, il est pour vous, ça, c'est clair. Est-ce que tu iras le voir, toi, Baptiste, celui-là?
Ça va faire cher au bout d'un moment. Hein.
Ça va faire cher. Ah, dis donc, si tu vas dans les cinémas de proximité...
Ça ne coûte pas très cher.
C'est pas cher, c'est beaucoup moins cher. Tu vas dans les cinémas de proximité?
Oui.
Bon, bah alors, tu as vu, le prix, quand même, il est raisonnable. Tu te rends compte que c'est quand même moitié moins que dans un cinéma... Que dans un grand cinéma, là où il y a tout ce qu'il faut, le bar et tout, mais où tu payes deux fois plus, quoi. Oui?
On verra, bon. Oui, j'ai eu travail aussi. Hein.
Ben écoute, il faudrait que tu fasses un peu la vaisselle, ta maman te donnerait 10 sous. Tu fais, je sais pas, tu laves la voiture, ton papa te donnera 10 sous. Enfin, je vais te trouver des idées.
Non, j'ai pas des parents comme
tu,
ça.
Tu viens faire le ménage chez moi, je te donne 10 sous. Non, je plaisante.
Si vous voulez.
C'était une blague. Mais si tu pouvais, tu irais le voir ou pas, finalement? Si tu avais le...
Si j'ai l'envie, oui.
Oui? Et si t'as la monnaie qui va avec, tu y vas?
Peut-être.
Oui, d'accord. Bon, ben oui, il est très beau. Hein, comme... Moi, je suis très fan des films japonais, donc j'avoue. Bon, alors, mes chéris, on va continuer par une comédie française-belge qui est étonnante. Ça s'appelle Notre-Dame. Ce qui est étonnant, c'est que le tournage a eu lieu avant, quelques mois avant
l'incendie.
Ça, et du coup, Valérie Donzelli, qui est la réalisatrice, elle n'en revient pas, quoi. Elle, chaque fois qu'elle est interviewée, d'ailleurs, elle en parle, elle dit, elle dit, quand j'ai su, là, pour l'incendie, quand j'ai vu, comme toute la France, d'ailleurs, hein, elle dit, mais j'ai été sous le choc. Parce que quand même, elle avait tourné ce film quelques mois avant. Et c'est fou. Alors, Valérie Donzelli, c'est une actrice, hein, elle est réalisatrice, elle est scénariste française. C'est son 5e long métrage, elle a 46 ans, elle a eu déjà 6 prix et 59 nominations. Son film a une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême 2019 dans la catégorie ciné et concert. Alors, c'est l'histoire de Maude Crayon, cette histoire de Notre-Dame, qui est née dans les Vosges mais qui vit à Paris. Elle est architecte, elle est mère de 2 enfants et elle remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui ressurgit subitement et le père de ses enfants qu'elle n'arrive pas à quitter, enfin elle ne peut pas le quitter complètement disons, Maude Crayon va vivre une tempête qu'elle devra affronter pour s'affirmer et se libérer. Mais c'est fou son histoire, quoi. Le synopsis, par rapport à ce qui s'est passé quelques mois après le tournage, c'est extraordinaire. Une architecte, justement, à qui on demande...
Mais ça faisait un moment.
De réaménager le parvis.
Ça, c'est une histoire vraie, que le parvis...
Oui, c'est extraordinaire,
il y a
justement.
Mais
elle n'avait absolument pas imaginé qu'un jour, il y aurait l'incendie et que, bon, voilà, et que là, les architectes devraient se mettre au boulot et proposer des leurs idées. En tout cas, c'est fou. Mais elle est complètement... Ah oui, elle est sous le choc encore, hein, d'ailleurs. Hein, elle a un peu... Alors, il y a un très, très beau casting. Donc, elle est Maude, hein, Valérie Donzelli joue le rôle. Pardon, excusez-moi, là, c'est mes cartons, là, qui... Pierre Deladonchamp, on a Thomas Simeka, on a Bouly Lanners. Ah, on l'aime, nous, Bouly Lanners. Eh bien, il est magnifique dans ce film, Bouly Lanners. Il a repris quelque chose, il est... Je sais pas. Je le trouve très beau, moi, dans Notre-Dame. Non, c'est vrai. Il s'est refait une petite santé. Il est très bien. On l'aime bien, nous, ici, Bouly Lanners. On a Virginie... Je dis ça à Baptiste, hein, qui a l'air un peu surpris. Donc, on a Virginie Ledoyen. On a Isabelle Candelier, Philippe Catherine, Claude Perron, Samir Ghesmi aussi. Voilà, c'est un très beau casting, hein, dans les rôles principaux, là. Tout le monde est tout à fait au point. Alors, le film, en fait, c'est avant tout une lettre d'amour à Paris. C'est la ville d'adoption, d'ailleurs, de Valérie Donzelli, la réalisatrice. En choisissant le parvis de Notre-Dame de Paris comme monument à réaménager, elle voulait traiter de l'histoire d'un échec lié à l'architecture. Effectivement. Elle nous dit, mais qu'est-ce qui pouvait faire scandale dans ce domaine aujourd'hui ? Cela ne pouvait concerner qu'un monument ancien auquel on proposait d'apporter de la modernité. Et oui, le seul endroit réaliste qui me paraissait à la fois symbolique de Paris et qui pouvait permettre un projet architectural était le parvis de Notre-Dame. À mon avis, elle a une boule de cristal et elle a lu l'avenir dans sa boule de cristal, Valérie Donzelli, qui est au demeurant une excellente actrice et vraiment une excellente réalisatrice aussi, hein, qui a été pas mal primée. Elle a le film dure 1h30. Est-ce que je ne sais pas si on avait une petite bande-annonce?
On a une bande-annonce.
Oh, mes amis, ils sont trop ici, rien. Ils vous gâtent, mes chéris, ils vous gâtent.
Maud Crayon est née dans les Vosges, mais vit à Paris.
Maman, papa a dormi là cette nuit?
Non, pas du tout.
Allez, dépêchez-vous.
Elle est architecte, mère de deux enfants.
Salut. Crayon!
C'est à cette heure-là que t'arrives. C'est la dernière fois. 9h, c'est pas 9h15. Et puis pour ton contrat, on verra ça le mois prochain.
Quel con. Il y a la mère qui veut te voir.
La mère de qui?
Bah, la mère de Paris.
La mère de Paris?
Maud Crayon remporte sur un malentendu.
J'adore.
On adore.
Le grand concours pour réaménager le parvis de Notre-Dame.
Moi, j'ai tout de suite vu son potentiel, tout de suite direct.
Oh, quel gros con.
C'est le début d'une nouvelle vie pour Maud.
T'es enceinte de 4 mois.
C'est une blague?
Et d'une nouvelle histoire.
Alors, le budget dont vous disposez est de 121
millions. 121
millions.
Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secourisme.
T'as pas changé.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, on va plus se quitter. T'as jamais repensé à moi?
Bien sûr que si.
C'est qui exactement, Martial?
Le père de mes enfants.
Pourquoi il était dans ton lit?
Parce qu'il dort mal dans le canapé.
Ouais. Quand on dit à quelqu'un ce soir et qu'on ne vient pas, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on a la trouille. C'était pas prévu que je gagne ce concours, c'était pas prévu que je tombe enceinte et c'était pas prévu que tu te déboules dans ma vie comme ça. Alors maintenant, on fait quoi?
Je sais pas.
J'ai toujours su que t'étais hyper cul.
Voilà Notre-Dame, donc, ouais, film de Valérie Donzelli.
De Valérie Donzelli et de Pierre Deladonchamp. Oui, ah mais écoutez là, mes chéris, quand même, si vous devez vous offrir un film ce mois-ci, vous pourriez peut-être commencer par Notre-Dame quand même, parce que c'est assez inouï.
Être un film réjouissant.
C'est une histoire assez incroyable, je trouve. Il y a quelque chose sur ce film qui plane sur ce film par rapport à la réalité, à ce qui s'est passé, quoi. C'est quand même... J'aimerais assez rencontrer Valérie Donzelli pour qu'elle pour lui demander quoi qu'elle me redise à quel point ça l'a choquée, à quel point elle est voilà, ce serait intéressant.
Hey.
Alors ensuite j'ai une romance et c'est roumain, c'est un film roumain, ça s'appelle Après la nuit. C'est de Marius Olteanu. C'est ça. Réalisateur, producteur roumain. Il est très connu là-bas, hein. Il est très apprécié. J'ai regardé ce réalisateur. Il a 40 ans, il a déjà eu 3 ou 4 nominations. C'est l'histoire de Dana et Arthur, la quarantaine, qui sont mariés depuis près de 10 ans. Mais quelque chose s'est fissuré à cause de leurs besoins, de leurs croyances et de ce que la vie leur offre, de leurs démons intimes. Un jour, ils devront décider si laisser partir l'autre n'est finalement pas la plus grande des preuves d'amour. Alors, dans les rôles principaux, on a des acteurs roumains, dont un deux qui sont très connus là-bas. Alors, on a Judith Stett, qui fait Dana. Arthur, c'est Christian Popa. Ensuite, on a Alexandre Potocean et Tserban Pavlou. Alors, évidemment, je vais me mettre au roumain dès demain. Hein, j'ai prévu de prendre des cours de roumain. Et la prochaine fois, comme ça, j'aurai les noms un peu bien. Quoi, dans le... Ça dure 1h50, ce film. Alors, pour la réalisation du film, Après la nuit, le réalisateur, d'ailleurs, parle du trajet que l'on fait avec l'autre, mais aussi vers soi. Et des compromis qu'inévitablement, c'était pas facile à dire, mais tant pis, j'ai joué, l'amour induit. Il parle également du temps qui passe et de la façon dont il peut altérer la relation amoureuse. Il ajoute même, à mesure qu'une certaine liberté économique voit le jour en Roumanie, Je trouve qu'il devient de plus en plus compliqué d'être avec quelqu'un. La pression liée à l'injonction de rendre l'autre heureux, mais aussi tout l'entourage de couple. Et cet entourage, d'ailleurs, tout ça, là, cette injonction de rendre heureux l'entourage, ça, c'est écrasant et ça conduit à de permanentes concessions. C'est fatigant, les concessions à la longue, effectivement. Le film parle aussi des apparences qu'on essaie de sauver, l'apparence de l'amour derrière laquelle peuvent surgir des monstres. Voilà ce qu'il nous dit Marius Olteanu, ce réalisateur. Il est, non seulement il est connu chez lui, mais apparemment, c'est un grand cinéaste qui fait des films qui marchent très très bien là-bas. Ça s'appelle « Après la nuit », ça dure 1h50. Écoutez, si ce thème vous semble, vous attire, c'est pas très joyeux, hein, c'est une romance, mais enfin bon... ce film est pour vous, c'est sûr. Ça peut peut-être vous aider, d'ailleurs, à trouver des réponses, des choix, à faire des choix. Parfois, le cinéma peut aider, justement. Ouais, ça arrive. Et oui. Et Baptiste me regarde un peu surpris, parce qu'il n'a pas l'âge encore d'être marié, d'avoir des enfants. Donc, il ne se doute pas de ce qui va lui arriver plus tard. Baptiste, je plaisante.
Non,
ça se passera bien pour toi. Tu verras, ça se passera bien. Oui. Alors ensuite, j'ai une comédie dramatique. Une comédie dramatique belge, canadienne aussi. Ça s'appelle Emma Peters. C'est de Nicole Palot. Nicole Palot, c'est une actrice, réalisatrice, scénariste française. Elle est américano, elle est française, américano-belge. Voilà, c'est un peu compliqué, hein, elle a 42 ans. Et elle dit qu'elle a mis beaucoup d'elle dans le personnage. C'est quoi Emma Peters? C'est l'histoire justement d'Emma Peters qui va avoir 35 ans. Après des années de galère à Paris à essayer de devenir actrice, elle décide de se suicider pour réussir quelque chose dans sa vie. Oui, vous avez bien entendu mes chéris. Elle décide de se suicider pour dire voilà, j'ai réussi quelque chose. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est une comédie dramatique, hein. Ce n'est pas un drame, attention. Elle fixe la date à la semaine suivante, c'est à la semaine suivante, le jour de son anniversaire, voilà, elle fixe la date. Pour le meilleur et pour le pire, elle rencontre Alex Bodard, un employé des pompes funèbres, un peu bizarre, qui va lui proposer de l'aider. Voilà, donc c'est dans les rôles principaux, on a Monia Chokri, qui est une actrice québécoise, mais qu'on connaît. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, on la reconnaît. Elle tourne beaucoup en France, et Monia Chokri, et c'est une comédienne de grand talent. En fait, moi, je trouve que j'apprécie beaucoup sa façon de jouer. Donc c'est elle, Emma Peters. Ensuite, on a Fabrice Haad. On a Stéphanie Crayoncourt. Alors, elle, c'est une actrice belge. On a Andrea Ferréol. On la connaît. On la connaît, Andrea Ferréol. Oh, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. C'est une excellente comédienne. Moi, je suis ravie de la revoir, là. Nicole Palot, donc, a conçu Emma Peters comme une pilule thérapeutique pour quiconque a un jour pensé tout envoyer balader sans jamais oser le faire. Ah oui, une pilule thérapeutique, c'est pour ça, oui, c'est quand même... Elle nous dit, à l'ère de la pensée positive, du développement personnel, de l'éternelle quête de bonheur et d'épanouissement, du culte du moi, force est de constater, les gens ne sont pas plus heureux qu'avant. La plupart n'ont pas la vie dont ils ont rêvé. Nicole Palot a voulu décrasser le film des trentenaires en crise existentielle, car il y a dans le film une douce dérision. C'est plein d'humour en fait, hein. C'est quand même bon allez mes petits cocos, si un jour vous avez eu une mauvaise idée comme ça, j'en ai marre, je ferais mieux de mourir, eh bien allez voir ce film et vous verrez que on peut se remettre sur pied sans passer par le suicide en fait, hein. Emma Peters, je peux pas en dire plus long, mais ça dure 1h27. Oh allez. Bon, Baptiste, est-ce que tu iras voir ça, là, Emma Peters?
Je sais pas.
Tu sais pas?
En fait, je sais jamais.
T'as jamais eu envie de tout envoyer balader, toi, quand même?
Non.
Oh non?
Non.
Bah non. Mais non, il a le sourire jusqu'aux oreilles, c'est la vie même, Baptiste. Non, non, non. Il a jamais pensé à ça. Donc, je pense que celui-là, tu vas faire l'impasse dessus. Hein.
Ouais.
Oui, bon, d'accord. Ok, mais bon... Mais moi, par contre, je t'assure qu'il me faut le DVD. Moi, j'ai envie de le regarder de temps en temps. Voilà, pour c'est une pilule thérapeutique pour retrouver le moral quand on l'a perdu. Parfois, ça arrive. Écoute, hein. Quand on est fatigué, tu vois, d'avoir déballé des cartons, eh ben le moral, il en prend un petit coup, forcément. C'est la fatigue. Je plaisante. Alors, ah, ben dis donc. J'ai un film pour toi, Baptiste. Ah, mes chéris, super. Science-fiction, aventure, américain, c'est quoi ?
Star Wars.
Ouais, c'est Star Wars. L'ascension de Skywalker. Je voudrais que tu le dises, le titre. Vas-y, dis-le, le titre.
L'ascension de Skywalker.
Non, tu dis tout depuis le début.
Ah, tout.
Alors, nous avons...
Nous avons Star Wars, donc le film, c'est l'ascension de Skywalker.
Voilà, parce que celui-là, je suis sûre que c'est comme si tu étais déjà dans la salle.
Ah oui.
On est d'accord. Bon, d'accord. Alors, bah oui, bon, c'est la conclusion de la saga Skywalker. Hein, c'est, de nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté. Alors, on a Daisy Ridley, je sais pas, tu les connais peut-être les acteurs là, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega. John Boyega, oui, ça me dit. Star Wars, alors, c'est, il y a eu quoi ? Il y a eu en 2015, c'était quoi ? C'était
Le réveil de la force.
Ouais. Et en 2017, c'était
Les derniers Jedi.
Ah ouais. Bah oui, alors il connaît. Bon bah il connaît, voilà. On est d'accord. Donc alors il y a eu Rogue One, A Star Wars Story, qui est situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars.
Oui.
D'accord.
Oui.
Tu l'as vu celui-là
Je les ai tous vus.
Ouais. Bon, ben voilà. Alors là, bon, ben c'était pour Noël. Hein. Vous allez offrir à vos ados ce film pour les fêtes, quoi. 2h22, c'est la bonne semaine, là, pour aller voir ça.
Hein. Oui.
Bah oui. Ah oui, oui. Mais on commence à les aimer. On les aime, de toute façon. On commence à les apprécier véritablement. Ils font partie de la famille, presque, hein, les héros de Star Wars.
Ouais.
Ouais, depuis le début, d'ailleurs. Depuis le tout début. Ensuite, j'ai un drame brésilien qui s'appelle Au cœur du monde. Alors attention, il y a un avertissement, on note bien les scènes et les propos des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. C'est important, mes petits choux, de bien noter ça, hein, parce qu'on ne sait jamais après. Même quelqu'un qui pense qu'il peut supporter, et il faut qu'il sache que quand même, il y a des choses un peu dures. On ne sait jamais. Alors, ça s'appelle... l'histoire, c'est... ça se passe dans une ville populaire du Minas Gerais brésilien qui s'appelle Contagem. C'est un coup de feu retenti lors d'une soirée d'anniversaire et lie les destins de Selma, Anna, Marcos, Beto et Miro. Tous se démènent pour améliorer leur vie et trouver leur place au cœur du monde. Faire fructifier... Ah oui, alors là, c'était fructifier, il n'y a pas de doute. Hein. Mais ce n'est pas facile de dire faire fructifier. Essaie pour voir.
Faire fructifier.
Attends, deux F comme ça qui suivent. Hein. Faire fructifier son commerce, bravo, de photographe scolaire, devenir chauffeur, Uber, ou braquer les riches demeures sécurisées sont autant d'options. Ah oui, il y en a quand même un qui rêve de braquer les riches demeures. Quoi. C'est pas... Oui, bon, pourquoi pas. Alors, on a Gabriel Martins, Maurilio Martins, qui sont co-réalisateurs dans cette histoire. Réalisateurs, monteurs, producteurs, ils ont la quarantaine. Ils ont... Non, il y en a un qui a 30 ans, et c'est vrai, je me trompe. C'est Gabriel Martins, il a 31 ans, et Maurilio Martins, il a 41 ans. Voilà, il est directeur de la photographie aussi. Bref, ils savent tout faire, ces deux réalisateurs, et ils travaillent ensemble. Alors, on a dans les rôles principaux Grace Passo, Barbara Cullen, Renato Noves. Oui, parce qu'on ne prononce pas le... Oui, c'est ça, j'ai regardé, on ne prononce pas le A, c'est Noves. Renato Noves, c'est sacré, Noves. Oui, et puis on dit Noves. Alors, c'est intéressant. C'est un film intéressant qui est présenté dans tous les festivals en compétition internationale. On découvre aussi une face du Brésil qui est assez intéressante, quand même. Ça dure 2h02. À amener les pop-corns, quand même. Voilà. Ensuite, Oui, j'avais un documentaire français que j'ai trouvé quand même intéressant. Enfin, il est français, soudanais, tchadien, allemand. Ça s'appelle Talking About Trees. Ça veut dire parler aux arbres. C'est de Sueb Gasmelbari, qui est un réalisateur, scénariste, directeur de la photo soudanais de 40 ans. Il a 6 nominations et un prix dans tous les festivals de documentaires. Ça dure 1h33. Et c'est vraiment... Alors, c'est ça, ce sont des cinéastes, ils sont 1, 2, 3, 4, ils sont 4 cinéastes facétieux, idéalistes, qui sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces 4 amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l'abandon. Et son nom, le nom de la salle, ce sera La Révolution. C'est beau comme tout, c'est un très beau documentaire. Moi, essayez de le choper. Et pour finir, un film d'épouvante, mais attention. Épouvante, horreur, thriller, américain-canadien, excellent, ça s'appelle The Lighthouse. The Lighthouse, ça veut dire le phare. C'est le phare. Et c'est de Robert Eggers, alors lui, c'est le roi de l'épouvante. Il fait que des chefs-d'œuvre, en fait. Quasiment, réalisateur, scénariste, chef décorateur américain. Il a 36 ans, il a déjà eu plein de prix et des nominations pour The Witch, par exemple. Il y avait The Witch, il est repassé souvent d'ailleurs sur des chaînes. Là voilà, c'est interdit au moins de 12 ans, donc ça veut dire que c'est quand même supportable. Parce que 12 ans, bon, c'est pas... ça va. Tu pourras y aller, Baptiste, voir The Lighthouse, tu pourras. Donc c'est... Le film a quand même un prix, 5 nominations au Festival du cinéma américain de Deauville, le prix du jury, qui est un très beau prix. Et oui, et il a aussi un prix et 3 nominations à la quinzaine des réalisateurs 2019, le prix Fipretchi, qui est un très beau prix aussi. C'est l'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. 1890, j'imagine. Alors, dans les rôles principaux, on a Robert Pattinson. Tu le connais, je suis sûre.
Non.
Ah bah forcément que si. T'as jamais vu Twilight?
Non, je regarde pas.
Il a pas vu Twilight.
Il est trop jeune.
Non.
Mais oui, alors.
Je suis trop jeune.
Alors, on a Willem Dafoe, qui est un grand comédien. On a Valeria Kaufman dans les rôles principaux. Oh bah c'est pas possible. Moi, je les ai vus, les Twilight. Enfin, écoute.
C'est pour ça, il est trop jeune.
Ah, il était bébé, tu veux dire? Ah bon?
Quand c'est sorti.
Non, mais on va pas dire. Mais c'est un jeune homme. Non, on peut pas dire ça.
Non,
c'est un jeune
j'aime
homme.
Pas ce genre.
Je voulais pas.
J'aime pas ce genre de film.
Et oui, voilà. Donc, c'est une histoire. En fait, c'est tiré. Enfin, c'est pas tiré d'une histoire vraie parce qu'il a changé un peu les choses. C'était un truc incroyable. Il y avait deux gardiens de phare gallois à l'époque. Là, en 1801, ça se passait. Qui était prénommé Thomas tous les deux. Ils s'appelaient Thomas, c'est comme ça, c'est un hasard, Thomas tous les deux. Ils se retrouvent coincés dans leur phare pendant une tempête. Lorsque le plus vieux des deux Thomas meurt accidentellement, l'autre, devenu fou, est persuadé que tout le monde va l'accuser. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Ben, après des semaines en compagnie du cadavre, il décide de fabriquer un cercueil de fortune qu'il attache aux balustrades à l'extérieur de l'une des fenêtres du phare. Mais le mauvais temps détruit le cercueil, laissant le corps à découvert. Plusieurs mois plus tard, un navire qui s'approche de l'île repart après avoir aperçu au loin une silhouette qui les salue paisiblement. C'est fou. Alors, il s'agissait en fait du corps du gardien qui bougeait. Ils avaient l'impression que c'était un salut et le corps du gardien est décédé, quoi. Plus tard, ce dernier et son collègue survivant seront finalement rapatriés. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose dans le Lighthouse, mais il sait quand même, Robert Eggers s'est quand même un petit peu inspiré de cette histoire vraie, quoi. C'est hallucinant quand même, ça, hein, le truc. Bon, enfin, c'était en 1801 aussi. Bon, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Il n'avait pas le téléphone, le smartphone pour appeler la côte pour dire « Au secours, mon copain est mort. Qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Ben là, c'était pour finir sur une petite note joyeuse quand même. Parce que finalement, mes chéris, je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment les films d'horreur, les films d'épouvante, etc. Celui-là, franchement, c'est un best. Hein, il est à voir, hein, si vous aimez. Il n'y a pas de doute. The Lighthouse. Voilà.
Très bien, et bien, merci beaucoup Anne pour toutes ces sorties cinématographiques et on se retrouve mercredi prochain à 11h pour une nouvelle conversation autour du cinéma. Et n'oubliez pas qu'il y a les podcasts pour écouter toutes les émissions sur le www.r2m.com.
Tout à fait. Baptiste, tu vas dire au revoir à nos auditeurs, je te prie.
Au revoir, au revoir.
Non, tu dis au revoir mes chers auditeurs.
Au revoir mes chers auditeurs.
Et au revoir à Damien.
Content d'avoir participé. Au revoir Damien.
Ben voilà, ben moi tu me feras la bise, c'est comme ça.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà, mes chéris, écoutez, passez une bonne semaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma, dans les salles de proximité, bien sûr. Vous savez qu'ici à Radio Entre Deux Mers, on les chouchoute ces salles-là, bien sûr, pour qu'elles survivent absolument. En tout cas, il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Yeux, tu sais.